On parle souvent de politique, des grandes décisions, des chiffres, mais aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent.
Oui.
On va s'intéresser à l'idée d'un pays, le Maroc, qui décide de se regarder dans le miroir. Et ce miroir, attention, ce n'est pas un rapport officiel, non, ou un sondage. C'est un miroir qui est tendu par plus de 1200 de ses propres citoyens, des gens qui ont juste accepté de se parler, de raconter leurs frustrations et leurs rêves.
C'est exactement ça. Le point de départ, c'est ce dossier qui est vraiment exceptionnel, qui compile les discussions de ce qu'on appelait les cafés citoyens.
D'accord.
Et l'idée derrière, elle est assez forte. C'est d'arrêter de voir la parole des gens comme un simple bruit de fond
Ah oui.
et de commencer à la considérer comme une ressource stratégique. En clair, on écoute pour agir.
Et pour donner du relief à ce reflet, on a aussi sur la table toute une série d'articles sur ce qui se passe en ce moment. On va parler de diplomatie, de nouvelles technologies et même de l'expérience qu'on a tous avec nos applications bancaires.
Tout à fait.
On jettera aussi un œil à ce qui se passe ailleurs dans le monde. La mission, donc, c'est de comprendre ce dialogue, ou parfois ce décalage, entre ce que les gens veulent au plus profond d'eux-mêmes et la réalité de la machine qui avance. C'est une plongée dans les fractures du pays, mais aussi dans sa quête de solutions.
C'est une exploration de ce que ce miroir révèle. Et la première chose qu'on y voit, c'est une image assez dure, sans concession.
Allons-y alors. Qu'est-ce qui saute aux yeux en premier dans ce miroir citoyen?
Le premier point de douleur, vraiment celui qui revient partout, c'est le duo éducation-santé. Pour l'éducation, les mots sont terrains. Ils sont très forts.
C'est-à-dire...
L'école est perçue comme inégalitaire, inadaptée et déconnectée de l'emploi. Ce n'est pas une petite critique à la marge.
Non.
C'est le système entier qui est remis en question.
Déconnecté de l'emploi, ça doit créer des situations terribles. On parle de ce sentiment de déclassement, d'avoir fait des années d'études, parfois longues, coûteuses pour les familles,
Bien sûr.
pour se retrouver finalement au chômage ou dans des petits boulots qui n'ont rien à voir. La promesse de l'ascenseur social, elle est en panne.
Elle est perçue comme une trahison. Et ce sentiment est encore plus fort à cause de la fracture géographique
Ah.
entre les villes, où on peut trouver de bonnes écoles, et les zones rurales, où l'accès à un établissement bien équipé est un parcours du combattant, bah, il y a un monde.
D'accord.
Et cette inégalité de départ, on la retrouve, presque à l'identique, dans le domaine de la santé.
C'est le même schéma.
C'est exactement le même diagnostic. Le système public est jugé faible, manque de médecins, manque d'équipements, des hôpitaux surchargés. Et là encore, tout dépend de l'endroit où on habite.
Je vois.
Les participants au débat ont vécu ça comme une négation du principe d'égalité des chances. Et quand il s'agit de la santé de ses enfants, cette injustice devient juste insupportable.
Le tableau est assez sombre. Mais ce qui est étonnant dans les sources, c'est que ça ne s'arrête pas à la plainte. Les gens ne font pas que dénoncer, ils proposent.
Absolument, c'est ça qui est puissant dans la démarche. Ils ne disent pas tout est nul, ils disent voilà comment on pourrait faire mieux.
Et qu'est-ce qu'ils proposent, par exemple?
Ils réclament de l'innovation dans la manière d'enseigner. Une école qui apprend à penser par soi-même, qui stimule l'esprit critique. Ils veulent aussi qu'on redonne aux enseignants le respect et les moyens qu'ils méritent. Ce n'est pas un rejet, c'est un appel à reconstruire ensemble.
Ce qui m'amène à une autre fracture qui semble vraiment fondamentale dans ce que les gens racontent, le lieu où on est. Ça a l'air d'être une vraie loterie.
C'est exactement le mot. Les sources disent que le territoire est un déterminant central.
Un déterminant central.
En clair, l'endroit où tu nais au Maroc peut décider de toute ta vie. Si tu viens d'une région sans service, sans université, sans emploi, la conclusion est quasi mécanique, c'est l'exode.
Partir n'est plus un choix.
Non, ce n'est plus un choix d'aventure, c'est la seule option pour survivre ou espérer un avenir.
Les sept exemples dans la région Tanger-Tétouan, à l'OCMA, qui est juste frappant. Ça illustre ça parfaitement.
Ah oui.
D'un côté, on a Tanger et Tétouan, des villes vitrines, modernes, tournées vers l'international. Et juste à côté, à l'intérieur des terres, on a Alo-CMA et les campagnes. Et là, le discours change du tout au tout.
C'est le jour et la nuit. On passe d'un discours sur le dynamisme économique à des mots comme marginalisation, urgence sociale majeure pour parler du chômage.
C'est violent comme contraste.
C'est très violent. Les sources mentionnent même des préoccupations très fortes sur la santé mentale des jeunes qui se sentent abandonnés. Ça montre que la modernité de la côte ne se diffuse pas. Les deux mondes coexistent, mais ils ne se mélangent pas.
Et la migration, qu'elle soit interne ou vers l'étranger, devient alors le symptôme de cette fracture. Ce n'est pas juste un jeune qui veut voir le monde.
Non, c'est un territoire qui n'arrive plus à retenir ses forces vives. C'est le symptôme d'un déséquilibre structurel. Une rupture, souvent vécue dans la douleur, parce que les alternatives sur place, elles n'existent tout simplement pas.
Le tableau est assez clair quand on y pense. École, santé, inégalité entre régions. Si c'est ça le reflet dans le miroir, la grande question c'est, est-ce que les dirigeants regardent? Est-ce que ça bouge en face ou est-ce que c'est juste un dialogue de sourds?
C'est toute la question. Et les autres sources qu'on a, justement, nous donnent des éléments de réponse. D'un côté, au niveau macro, il y a une vision, une stratégie qui se dessine très clairement.
Laquelle?
Celle de positionner le Maroc comme un carrefour, un hub incontournable sur le continent africain.
D'accord.
On le voit très bien dans les comptes rendus des Atlantic Dialogues, où l'idée du Maroc comme pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient est martelée. On met le paquet sur la coopération sud-sud, le développement durable et surtout l'intégration économique, notamment via l'ASLECAF.
L'ASLECAF, ça sonne un peu technique. En deux mots, c'est quoi l'idée?
Pour simplifier, c'est un projet immense qui vise à créer un marché unique sur tout le continent africain, un peu sur le modèle de ce qu'a fait l'Union européenne.
Ah oui, d'accord.
Pour le Maroc, être un acteur clé de ce projet, c'est absolument stratégique pour son avenir économique et diplomatique.
D'accord, donc il y a cette grande vision, ce Maroc qui se rêve en leader continental. Mais est-ce que ça se traduit par des choses concrètes pour les gens qui se plaignaient justement du manque de services?
Parfois, oui. On voit des projets d'infrastructures qui vont dans ce sens. L'article sur le lancement de 154 nouveaux bus modernes à Fès ou l'ouverture de la nouvelle gare de Rabariad.
Ce sont des réponses directes.
Ce sont des réponses directes aux besoins de mobilité et de désenclavement. Ça ne résout pas tout, mais ça montre une direction.
Et à côté de ces grands projets publics, il y a aussi tout un élan qui vient du privé, du monde de la tech et des start-up. On a l'impression que ça bouillonne.
Ça bouillonne et ça produit des pépites. On a l'exemple de la start-up Reborn, qui a développé des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour analyser la performance des sportifs.
Ah oui, j'ai vu ça.
Ils ont gagné un prix continental et des clubs marocains les utilisent déjà pour mieux entraîner leurs joueurs, éviter les blessures. C'est vraiment le symbole de ce Maroc innovant qui crée de la technologie de pointe.
Et ce n'est pas que pour le sport de haut niveau. J'ai été marquée par ce partenariat entre Moweb, qui est une association de femmes entrepreneurs, et une plateforme qui s'appelle Trade Social.
Oui.
Leur but, c'est d'aider les femmes qui ont des petits commerces à passer au numérique et à exporter leurs produits.
L'ambition est énorme, hein. Créer une nouvelle génération de femmes exportatrices, c'est exactement le genre d'initiative qui peut changer la donne.
Comment?
En connectant le savoir-faire local aux marchés mondiaux et en donnant une autonomie économique réelle à des milliers de femmes.
Donc on a cette image d'un Maroc ambitieux, qui construit des infrastructures, qui innove. Mais alors pourquoi ce décalage avec le ressenti des citoyens? Il y a forcément une friction quelque part.
La friction, elle est dans le quotidien, dans l'expérience de tous les jours. Et on a une étude sur les applications bancaires qui est une illustration parfaite de ce décalage.
Ah oui.
D'un côté, la promesse du digital, de la simplicité. De l'autre, la réalité.
Cette étude, elle est fascinante. Elle parle d'un Trust Index, un indice de confiance, qui est de 62-63 sur 100. Ça semble bas. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement?
Ça veut dire que près de 4 utilisateurs sur 10 n'ont pas vraiment confiance dans l'application de leur propre banque. Concrètement, ça se traduit par une fatigue numérique.
Une fatigue numérique.
32% des gens se plaignent que l'application est trop lente. 14% ont eu des bugs sur des opérations aussi basiques que des virements ou des paiements.
Le stress.
Imagine le stress quand tu essaies de payer une facture urgente et que l'application plante.
C'est le genre de choses qui rend fou. L'étude parle même d'émotions négatives et la colère arrive en tête avec 22%. Ce n'est pas anodin. Et il y a ce détail qui m'a semblé révélateur. Sur les 12 banques étudiées, 4 n'ont toujours pas intégré la langue amazigh dans leur application.
Et ça, ce n'est pas un détail technique. C'est perçu comme un manque de respect. Le sentiment que toute une partie de la population n'est pas prise en compte, ça nourrit la frustration. Et ça fait directement écho à ce que disaient les gens dans les cafés citoyens sur les services publics.
Oui, ce sentiment d'être...
Le sentiment d'être face à des systèmes conçus sans penser à eux, à leurs besoins réels. On a la promesse de la modernité, mais l'expérience est souvent décevante.
C'est un excellent point. On a donc ce tableau très contrasté du Maroc. Pour prendre un peu de recul, sortons de ce cadre et regardons comment certains de ces grands thèmes, la sécurité, la gouvernance, les débats de société, résonnent ailleurs dans le monde.
C'est une bonne idée, parce qu'on voit que ces tensions ne sont pas uniques au Maroc. Prenons l'Australie.
D'accord.
L'attaque terrible de Bondi Beach à Sydney, qui a fait 15 morts, a instantanément rouvé un débat de société extrêmement sensible là-bas, celui du contrôle des armes à feu.
Ça a dû raviver de très mauvais souvenirs, j'imagine.
Exactement. Tout le monde a immédiatement pensé au massacre de Port-Arthur en 1996. Un drame qui avait poussé le gouvernement de l'époque à imposer une des législations les plus strictes au monde.
Et donc, le débat est relancé.
Il est totalement relancé. Et c'est intéressant parce que ça montre comment un événement choc peut forcer tout un pays à se regarder dans le miroir sur une question fondamentale. C'est une version violente et réactive de ce que les cafés citoyens essayent de faire de manière apaisée et proactive.
Dans un tout autre style de gouvernance, on a les informations qui nous viennent d'Arabie Saoudite, avec un record d'exécutions en 2025. Le chiffre est effrayant. 340 mises à mort.
C'est un chiffre sans précédent depuis les années 90. Et quand on creuse, les sources expliquent que cette augmentation massive est la conséquence directe d'une guerre totale que le royaume a déclarée contre le trafic de drogue.
Ah d'accord.
Et en particulier contre le captagon. C'est une amphétamine qui fait des ravages dans la région. Donc on est face à une politique pénale d'une dureté extrême et totalement assumée.
Ce qui contraste fortement avec les débats complexes qu'on a en Europe, par exemple sur les crènes. Là, on est sur des enjeux financiers et géopolitiques.
Oui, l'Union européenne vient de valider un emprunt commun de 90 milliards d'euros pour permettre à l'Ukraine de continuer à fonctionner, payer ses fonctionnaires, ses retraites.
C'est un signal politique très fort.
C'est un signal très fort envoyé à la Russie, une preuve de solidarité sur le long terme.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que pendant qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un montant aussi énorme, ils sont complètement bloqués sur une autre question. L'utilisation des avoirs russes qui ont été gelés.
Ah oui.
Il y a des milliards qui dorment dans des banques et ils n'arrivent pas à décider quoi en faire. Pourquoi c'est si compliqué ?
Parce que le sujet est une poudrière juridique et diplomatique. Utiliser cet argent pour l'Ukraine créerait un précédent qui pourrait effrayer les investisseurs du monde entier. Et puis, il y a la peur des représailles de la Russie.
Donc on a d'un côté un soutien financier massif.
Via l'emprunt, oui.
Et de l'autre, une ligne rouge qu'ils n'osent pas franchir. Ces exemples montrent bien la complexité de la gouvernance aujourd'hui. Et il y a un autre thème qui traverse toutes les sociétés, c'est notre rapport au numérique. On en a vu les frustrations au Maroc, mais à l'échelle mondiale, ça prend des proportions vertigineuses. Il y a le côté très sombre d'abord.
Oui, la menace est bien réelle. L'histoire de cette vidéo deepfake qui mettait en scène un faux coup d'État en France est glaçante.
Terrifiant.
Publiquement, ça montre à quel point la frontière entre le vrai et le faux est devenue floue. La désinformation n'est plus artisanale, elle est industrielle.
C'est effrayant. Mais de l'autre côté de cette pièce numérique, il y a une réaction presque poétique. Une sorte de résistance culturelle qui se passe sur TikTok.
Ah, vous parlez du Great Meme Reset. C'est fascinant.
Oui, expliquez-nous.
Des millions d'utilisateurs fatigués de ce qu'ils appellent le brain rot, la pourriture de cerveau en français.
C'est une bonne image.
Oui. Ces contenus absurdes, sans queue ni tête, souvent générés par des IA, eh bien, ils ont décidé de revenir aux mèmes des années 2010. Des mèmes plus simples, plus humains, qui constituaient une sorte de culture commune.
C'est une forme de nostalgie, mais c'est plus que ça, non? C'est une façon de dire « stop » à l'absurdité des algorithmes, de reprendre le contrôle.
C'est une tentative de se réapproprier un espace, de ne plus être un consommateur passif d'un flux infini, mais de recréer du sens, de l'humour partagé. C'est une micro-révolution culturelle contre la saturation numérique.
Alors, si on rassemble toutes les pièces de notre puzzle, on est parti de ce miroir tendu par les citoyens marocains. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de cette exploration ?
On voit une image d'une très grande cohérence. D'un côté, une société qui exprime avec beaucoup de lucidité des attentes fondamentales. Des attentes d'égalité à l'école ou à l'hôpital, des attentes de dignité dans les services ou face à une administration, et surtout des attentes de participation.
Le désir d'être écouté.
Le désir d'être écouté et de faire partie de la solution.
Et de l'autre côté du miroir, on a un État, des institutions, qui avancent avec leurs propres plans, leurs grandes stratégies continentales, leurs ambitions technologiques, mais qui semblent parfois déconnectées des frictions du quotidien.
C'est exactement ça. Il y a un décalage de rythme, et peut-être de priorité, entre les aspirations des gens et la logique des grandes manœuvres géopolitiques ou économiques.
Ce qui nous laisse avec une pensée pour la suite. Les cafés citoyens sont une demande claire pour un dialogue permanent, pour une co-construction des politiques publiques. Les institutions, elles, ont leur propre agenda, leur propre tempo. La vraie question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Comment aligner ces deux horloges ? D'un côté, l'horloge patiente mais exigeante du citoyen, et de l'autre, l'horloge souvent pressée de la décision politique. Comment faire pour que ce fameux miroir des aspirations ne reste pas un simple objet de contemplation, mais devienne un véritable tableau de bord pour l'action ?